Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et la ligne droite, ce matin, c'est avec David Engels. Bonjour David.
Bonjour Richard.
Alors c'est votre dernière chronique avant la grande pause de l'été et je m'imagine que comme vous nous tous, vous ne devez pas être mécontent de ce petit moment de vacances pour échapper à ces disputes politiques interminables dont vous vous faites le fidèle scribe.
Oui, absolument. Je ne sais pas vous, mais moi, il m'arrive vraiment de plus en plus souvent de juste de reclapper mon ordinateur avec un grand sentiment de lassitude. Dès que je critique la politique américaine, me voilà immédiatement soupçonné d'être un agent secret du Kremlin. Si j'exprime des réserves à l'égard de la Russie, je me fais dénoncer comme un atlantiste. Et alors, à cette opposition commence d'ailleurs à s'ajouter une troisième puissance, la Chine, tandis que dans certaines régions d'Europe, la Turquie apparaît lentement, mais sûrement aussi comme un pôle de référence, et je vous fais évidemment grâce d'Israël. Il ne s'agit plus de discuter d'un problème concret, d'examiner les intérêts de son propre pays ou de son continent, mais de choisir un protecteur, un camp, presque un suzerain. Tout est réduit désormais à une discussion stérile sur l'adhésion à des camps dont aucun est dirigé par l'Europe. Alors le plus frappant, c'est que cette logique traverse aujourd'hui tous les courants politiques, à gauche comme à droite, parmi les souverainistes comme parmi les européistes. Nombreux sont ceux qui semblent persuadés que l'avenir de leur nation dépendra avant tout de l'appui d'une puissance extra-européenne. Certains voient dans les États-Unis le seul rempart contre la Russie, d'autres placent leurs espoirs dans Moscou et la Russie éternelle pour contrebalancer l'influence du grand Satan américain, d'autres encore regardent maintenant vers Pékin ou vers Ankara. Même des gouvernements réputés farouchement patriotes, tels que celui de Viktor Orban, qu'il repose en paix, s'efforce d'entretenir simultanément même des relations privilégiées avec plusieurs de ces grands pôles de puissance. Et l'on en vient à ce paradoxe très singulier, celui qui refuse de choisir un empire et pense avant tout à sa civilisation européenne, est souvent présenté comme agent de traître à sa nation, tandis que celui qui fonde explicitement la stratégie de son pays sur le soutien d'une puissance étrangère continue à se proclamer un ardent patriote.
Alors, est-ce vraiment si nouveau que ça? Et dans quelle mesure ce paroquialisme ne constitue pas plutôt une constante de l'histoire européenne?
C'est vrai que depuis des siècles, les Européens peinent à penser leur destin à l'échelle de leur propre civilisation et tendent à impliquer les puissances extérieures dans leur lutte intérieure. Ce qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs les cités grecques qui faisaient déjà appel aux Perses ou aux Romains contre leurs différentes cités rivales. Le cas le plus emblématique, et qui devrait quand même nous faire penser, demeure sans doute celui de la guerre des 30 ans. Chacun des protagonistes en Allemagne croyait pouvoir défendre ses propres intérêts. En particulier, chacun estimait que l'appui d'une puissance étrangère lui permettrait d'obtenir un petit avantage décisif sur les voisins. Les princes protestants accueillirent avec enthousiasme l'intervention suédoise, les Habsbourg, catholiques, sollicitèrent l'aide de leurs cousins espagnols, et bien évidemment, tous ces patrons extérieurs, comme par exemple la France de Richelieu, n'agissaient pas du tout par sympathie idéologique pour l'un ou pour l'autre, mais par pur calcul politique afin d'affaiblir durablement le Saint-Empire. Tous ces petits princes et ducs allemands pensaient agir en patriotes et agir pour l'intérêt de leur petite parcelle de terre, et tous contribuèrent pourtant à détruire l'équilibre politique de l'Europe centrale. L'Allemagne sortit exsangue d'un conflit dont les véritables bénéficiaires furent précisément les puissances périphériques appelées à arbitrer ces querelles. Et là, cette incapacité à dépasser les rivalités internes constitue peut-être l'une des caractéristiques les plus désagréables de l'histoire de notre continent. Là où d'autres grandes civilisations ont progressivement appris à distinguer leurs conflits intérieurs de leurs intérêts géopolitiques fondamentaux, les Européens continuent souvent à considérer leurs voisins comme leurs principaux adversaires. Pour un patriote polonais, la menace première demeure fréquemment l'Allemagne et la Russie. Pour un patriote français, l'Allemagne ou parfois le Royaume-Uni. Pour un patriote allemand, c'est la France ou la Pologne. Pour un hongrois, c'est Bruxelles ou Bucarest, et ainsi de suite. Et dans ce contexte-là, l'alliance avec une puissance extérieure apparaît presque naturellement comme le seul moyen de rétablir un équilibre favorable. Et pourtant, cette logique est profondément anachronique de nos jours, car le monde dans lequel évoluent aujourd'hui les nations européennes n'est plus celui du XVIIe, XVIIIe ou XIXe siècle. Les véritables pôles de puissance se situent désormais à une toute autre échelle et surtout en dehors de notre continent. Les États-Unis, la Chine, la Russie, Demain, peut-être l'Inde et la Turquie résonnent comme des vrais empires civilisationnels, dominés uniquement par leur propre raison d'État. Aucun stratège américain ne construit son analyse autour d'une véritable sympathie individuelle, dans le contexte, par exemple, de l'antagonisme séculaire entre Français et Allemands. Aucun responsable chinois ne se demande s'il convient de durablement favoriser Varsovie contre Budapest ou Madrid contre Rome. Tous observent avant tout l'Europe comme un ensemble qu'il faut à tout prix fragmenter et dont ils cherchent à orienter l'évolution dans le sens de leurs propres intérêts, en se servant consciemment de nos différends idéologiques et politiques afin de faire avancer leurs intérêts.
Enfin, c'est très normal, en fait.
Absolument, absolument. Toute grande puissance agit conformément à sa propre logique. Et l'on peut déjà relire dans l'Arthashastra de Kautilya la théorie selon laquelle il faut affaiblir son voisin et s'aligner avec le voisin de son voisin. Les États-Unis souhaitent conserver un partenaire économique prospère, mais politiquement dépendant. La Russie préfère avoir face à elle un voisin divisé plutôt qu'une puissance continentale capable de lui faire contrepoids. La Chine voit avant tout dans l'Europe un immense marché et la Turquie poursuit ses propres ambitions régionales de retour sur les Balkans, etc. Rien de tout cela n'est exceptionnel. La Russie supporte aujourd'hui les milieux conservateurs en Europe, mais l'on peut être sûr que demain, si ces mêmes milieux devenaient porteurs d'un véritable patriotisme européen, la Russie investirait dans le soutien des oppositions de gauche, tout comme François Ier, qui supportait les Turcs contre Charles Quint, tout en ayant promis de partir en croisade contre l'islam, ou comme Richelieu, qui persécutait les protestants en France, tout en les supportant en Allemagne. Dans ce contexte, le patriotisme national, cherchant désespérément un appui à l'extérieur, cesse d'être une affirmation d'indépendance civilisationnelle pour devenir une forme de dépendance choisie. Pour devenir le chef dans la cour des petits, l'on se place sous la tutelle de l'un des grands garçons dans la cour des grands, sans réaliser que c'est exactement ce que font tous les autres également.
Alors, je sens, David, que pour nous donner à penser pendant les vacances, vous allez nous reparler d'espérialisme.
Oui, absolument, forcément. La véritable opposition aujourd'hui n'est pas celle qui séparerait les conservateurs des progressistes, ni celle qui divise les nationalistes et les mondialistes. C'est celle qui oppose ceux qui continuent à penser exclusivement à l'échelle de leur État-nation, à ceux qui comprennent que les nations européennes ne pourront préserver durablement leur liberté qu'en réapprenant à agir ensemble comme les composantes d'une même civilisation. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas du tout maintenant de ressusciter l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui ou de la confirmer là-dedans. L'Europe bureaucratique de Bruxelles, construite sur un universalisme abstrait, une technocratie désincarnée et surtout la négation des identités nationales, ne saurait constituer une réponse satisfaisante à la crise civilisationnelle que nous visons. On en est bien d'accord, elle en est plutôt un symptôme. L'Europe dont nous avons besoin devrait être tout autre. Et c'est pour cette Europe-là qu'il faudrait lutter. Une Europe consciente de son héritage grec, romain, païen et chrétien, respectueuse de la diversité historique de ses peuples, prête à défendre son identité civilisationnelle contre tout ennemi extérieur et intérieur, et fondée sur le principe, évidemment, de subsidiarité et de coopération entre des nations.
Ah, nous avons un léger souci, ça s'est figé. David, nous ne vous entendons plus. On va essayer de rétablir la connexion.
Oui, là malheureusement il a perdu sa connexion internet, je vais essayer de le rappeler par téléphone.
Parfait, merci beaucoup Franck. Voilà, et donc je vois que David s'agite, mais...
Très bizarre.
Ah non, je vous entends à nouveau David.
Oui. Ah oui, c'est bizarre. Voilà. Voilà, c'était probablement les services secrets de l'Union européenne. Qui
mais exactement. Il est temps effectivement de mettre en avant les vraies raisons.
Oui, je crois aussi. Bon allez, je finis mon laïus. Donc paradoxalement, ceux qui prétendent aujourd'hui défendre avec le plus de vigueur l'État-nation sont souvent ceux qui contribuent le plus à le fragiliser, puisqu'il l'enferme dans une solitude géopolitique désormais insoutenable, tout en décrédibilisant durablement patriotisme et conservatisme dans les yeux de tous ceux qui ne veulent pas détricoter les acquis réels de l'idée européenne. À l'inverse, c'est peut-être en acceptant de replacer la nation dans le cadre plus vaste de la civilisation européenne qu'il sera encore possible d'en assurer la pérennité. Renforcer la France par une alliance, par exemple avec la Russie, afin d'affronter une Allemagne qui, elle, se ferait supporter par les États-Unis, ce n'est pas un acte de patriotisme, mais de suicide géopolitique. En revanche, s'arranger entre voisins européens afin d'éviter, après le grand remplacement, la grande vassalisation, est le seul véritable acte de patriotisme qui a encore un sens, en tout cas à mes yeux. Nous disposons sans doute d'une des dernières fenêtres d'opportunité pour accomplir cette mutation. Les États-Unis semblent se détourner progressivement des affaires européennes pour le moment. La Russie demeure affaiblie par ses difficultés économiques et militaires. La Chine, malgré son ascension, reste encore assez éloignée de notre continent. Mais cette configuration exceptionnelle ne durera probablement pas éternellement. D'autant plus que la migration de masse, notre retard technologique, la crise démographique, la haine que les woke ont pour notre identité et le déclin infrastructurel vont tous bientôt nous affaiblir durablement. Dans une décennie, les rapports de force auront donc changé encore plus à notre détriment et les marges de manœuvre européennes risquent d'être beaucoup plus étroites. Refuser de choisir entre Washington, Moscou, Pékin, Ankara, Tel Aviv ou Dubaï ne signifie pas vouloir l'isolement de nos nations. Cela signifie au contraire vouloir leur éviter de devenir les provinces périphériques d'empires étrangers et de se concentrer sur la vraie lutte qu'ils apportent, celle contre les élites européistes et en faveur de nouvelles élites patriotiques de notre civilisation. Ainsi, dans le monde qui s'annonce, l'alternative n'est plus entre l'Europe et les nations, mais entre une Europe capable de redevenir une puissance civilisationnelle et des nations progressivement réduites à chercher leur salut sous la protection d'autrui.
Eh bien, merci beaucoup David, bonnes vacances et merci de nous avoir donné matière à penser.
Merci bien, également très bonnes vacances.
Ligne droite, l'analyse.
Et l'analyse, c'est avec Charles Danjou, le président fondateur d'Omerta Media. Bonjour Charles. Charles qui va arriver dans un instant et qui est en Russie, si je ne m'abuse, en ce moment. Donc voilà, il est en train d'arriver, je le vois. Bonjour Charles Danjou.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, je crois que vous êtes en Russie actuellement.
Absolument.
Et alors, donc, la Russie, depuis la déclaration de Vladimir Poutine hier, reconnaissant certaines difficultés, effectivement, l'Ukraine a décidé de concentrer beaucoup de ses frappes sur l'appareil industriel pétrolier russe. Donc, il y a des difficultés d'approvisionnement en essence. On sent que les territoires qui paraissaient acquis à la Russie, comme la Crimée, deviennent à nouveau des enjeux de guerre. Et donc, l'Ukraine a un peu changé sa stratégie et on a l'impression que la Russie a du mal à s'adapter à cette nouvelle stratégie.
Oui, alors on est en train de vivre ce qu'on a vécu il y a 3 ans au moment de la contre-offensive ukrainienne sur à peu près l'intégralité de la ligne de front. Cette contre-offensive, elle avait duré 2 mois et demi et elle avait été présentée comme... je dirais quasiment victorieuse, rien ne pouvant arrêter l'armée ukrainienne soutenue par les chars occidentaux, les fameux chars Léopard allemands, etc., etc. Là, on revit un petit peu la même chose, tout simplement parce qu'au mois de septembre, il y a des élections législatives en Russie et qu'on voit bien que l'objectif, au-delà des objectifs militaires, des destructions de dépôts de carburant, etc., etc., c'est de déstabiliser en fait le dirigeant russe Vladimir Poutine dans la perspective justement de ces élections législatives qui auront lieu le 18 septembre. Donc là, c'est pas seulement... Et pourquoi je dis ça ? Simplement parce que c'est pas juste une offensive militaire sur le terrain, c'est aussi et surtout une offensive médiatique, en particulier en France. Je voyais hier Bernard-Henri Lévy qui ressortait des images de 2023 pour commenter les offensives ou les bombardements ukrainiens en ce moment, alors qu'il n'y connaît strictement rien et qu'il a des informations, je pense, extrêmement parcellaires, provenant certainement des éléments de langage fournis par les Ukrainiens, puisque voilà, quand Bernard-Henri Lévy s'exprime, on sait en général qu'il y a un loup quelque part. Donc là, ils essaient de nous vendre dans cette opération de communication le fait qu'effectivement, non seulement la Russie serait gravement déstabilisé sur le plan énergétique, vous le disiez, mais aussi sur le plan politique. On nous sort un soldat qui critique Poutine avec des médailles, etc. On nous refait le même coup qu'avec Prigogine. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de problème. Moi-même, sauf que je conduis un véhicule diesel, donc je suis bien placé pour en parler, il est difficile de trouver du diesel dans les stations-service à Moscou, par exemple. Il y a peu de stations-service qui sont approvisionnées régulièrement en diesel. Ceci étant, par exemple, pour l'essence, pour le sans-plomb, etc., il n'y a absolument aucun problème. Donc, puisque là, j'ai la chance de m'y trouver au moment où tout ça se passe, il y a effectivement le sentiment que cette guerre est difficile parce que les Ukrainiens disposent des matériels et des soutiens et des financements occidentaux sans lesquels la guerre serait déjà terminée. Donc...
Charles, on ne vous entend pas. Charles, on ne vous entend plus du tout. Charles d'Anjou n'a pas compris qu'on ne l'entendait plus, donc... Je crois que peu à peu on est en train de rétablir la connexion. Donc ça a été la matinée. Vous nous entendez, Charles? Formidable.
Oui, je suis désolé parce qu'on est par VPN ici, comme WhatsApp est bloqué, donc parfois le VPN saute. Non, je disais que là c'est une opération de 40 jours durant laquelle les Ukrainiens et leurs soutiens occidentaux concentrent un maximum d'efforts, avec en ligne de mire la déstabilisation de Vladimir Poutine et la création de troubles ce qu'avait vécu la Russie avec Yevgeny Prigogine à l'été 2023, et une contestation aussi dans les urnes, une contestation populaire, ces fameuses contestations populaires qu'ont toujours espéré les néoconservateurs, que ce soit en Russie, mais aussi en Iran et ailleurs. Voilà, donc on verra ce que ça donne. La réalité, c'est que le quotidien, évidemment, est un peu plus difficile pour les Russes. Tout ça est à relativiser, parce que je vous dis que hier, j'étais dans le centre de Moscou. Tout fonctionne absolument normalement, y compris en région où j'étais il y a une semaine. Il y a absolument aucun problème. Ceci étant, les Russes, et d'ailleurs Poutine l'a dit, les Russes ont bien conscience qu'en ce moment, le ton s'est durci du côté de l'Ukraine, qui, bien que disant qu'elle est prête, et c'est Volodymyr Zelensky qui le dit, à négocier, à un cessez-le-feu, etc., en réalité, occupe l'intégralité du champ de la communication. D'un côté, on nous explique qu'on est prêt à la paix et qu'on est prêt à discuter avec les Russes, et de l'autre côté, on intensifie les bombardements sur des axes stratégiques, aussi sur des objectifs qui n'ont absolument aucun intérêt. Par exemple, ce collège à Lugansk qui a été bombardé par un missile faisant des dizaines de morts parmi les étudiants, ça n'avait strictement aucun intérêt stratégique. Et la Crimée que vous mentionniez il y a un instant, et la Crimée, c'est intéressant parce que la Crimée, elle est reliée par un pont côté est au continent, et côté nord, elle est reliée pas par des ponts, mais surtout par des bandes de terre. Donc là, effectivement, les Ukrainiens intensifient la pression sur la Crimée parce que la Crimée pose un problème d'approvisionnement logistique aux Russes qu'ils peuvent résoudre. Mais qui évidemment est plus prégnant que des objectifs ou des villes ciblées sur le continent.
Charles d'Anjou, vous nous dites que l'Ukraine est prête à la paix tout en bombardant. C'est exactement ce que dit Poutine, qui lui aussi dit qu'il est prêt à la paix et qui continue ses bombardements. Et on a l'impression en fait que les deux pays ont exactement la même tactique, c'est-à-dire dire qu'on est prêt à la paix tout en continuant le combat pour garantir les meilleures chances de négociation et affaiblir l'adversaire en le bombardant à outrance, quitte à ce que une ou deux bombes s'égarent ici sur un collège, là sur une cathédrale, là sur un immeuble et là-bas sur un autre immeuble. Donc on n'a pas l'impression que les Ukrainiens fassent autre chose que ce que font les Russes.
Oui, exactement, parce qu'en réalité, si on prend un peu de recul et surtout un peu de hauteur par rapport à ce conflit, on voit que ce n'est pas seulement les questions territoriales entre la Russie et l'Ukraine, et pour lesquelles, pour le moment, il n'y a aucun accord. Vladimir Poutine est tombé à signer les conditions avec Donald Trump. Ils sont tombés d'accord sur les conditions de paix à présenter à l'Ukraine à Anchorage il y a un an, en Alaska. Ces conditions qui prévoient notamment que les territoires du Donbass pris par la Russie resteront à la Russie ne sont... possibilité pour le début d'ouverture de négociations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Volodymyr Zelensky est une pièce, c'est un point de vue personnel, est une pièce dans l'échiquier mondialiste, dans l'échiquier européiste. En réalité, l'Europe, l'Union européenne, pour se constituer en État fédéral, a besoin d'un point de fixation avec la Russie. D'abord parce que la Russie est un... Les valeurs conservatrices de l'orthodoxie promues par la Russie sont contraires aux valeurs des dirigeants de l'Union européenne. D'autre part, ça permet d'expliquer que, eh bien, face à la menace russe, on a besoin de se constituer en fédération. Je vous invite d'ailleurs à revoir les propos de Bruno Le Maire qui dit exactement ça, c'est-à-dire qu'il faut une fédération avec, au départ, 6 États, nations européens qui créent une fédération avec un gouvernement, avec une diplomatie unique, etc. Donc, on voit là, l'objectif est en train de sortir et vous verrez qu'avec la campagne présidentielle française, le bloc central va préciser un projet en ce sens. Et de l'autre côté, dans ce plan un peu européiste, dont la guerre en Ukraine n'est qu'un théâtre d'opération, il y a aussi, si on prend toujours un peu de recul, il y a aussi l'après-Trump. Et j'invite nos auditeurs éclairés, qui réfléchissent, à imaginer un monde dans lequel, le monde d'après, si l'Ukraine et l'Union européenne gagnent la guerre contre la Russie, et si Donald Trump ou J.D. Vance sont battus demain aux élections présidentielles. Je les invite à réfléchir. Ça permet, peut-être que ça permettra d'ailleurs à une partie de l'extrême droite viscéralement nostalgique du Troisième Reich et de viscéralement soutien à l'Ukraine, de peut-être se poser quelques questions, sait-on jamais.
Merci Charles Danjou. Si on veut revenir sur les 40 jours dont vous avez parlé, c'est effectivement le même délai que Bernard-Henri Lévy a évoqué hier à la télévision en expliquant que voilà, dans 40 jours, Poutine serait défait. Et selon lui, d'ailleurs, Poutine est déjà au courant et a quasiment admis sa défaite.
Oui, vous savez, on nous a tout expliqué sur Vladimir Poutine. Quand je suis rentré d'Ukraine, où j'aidais TF1 LCI dans les 5 premiers mois de la guerre en Ukraine, on a vu effectivement des j'observais sur les plateaux LCI, sur lesquels j'étais encore invité, j'observais l'hystérie de la plupart des commentateurs ou des analystes que j'avais en face de moi qui étaient invités et qui disaient que Vladimir Poutine avait un cancer, qu'il était homosexuel refoulé, qu'il allait être destitué par un putsch, qu'il était menacé, etc., etc., etc. Bon, je veux dire, Bernard-Henri Lévy est en service commandé, d'ailleurs c'est peut-être l'un des chefs de ce service commandé, pour vendre cette guerre de 40 jours, et pour essayer de continuer à convaincre, je ne sais pas d'ailleurs s'il réussit à convaincre grand monde en France, ça c'est peut-être une erreur de casting, j'aurais peut-être dû le retirer, mais pour essayer de convaincre l'opinion occidentale que la Russie est sur le point de tomber, qu'il faut continuer à poursuivre les efforts, et aussi pour montrer aux Russes qui suivent ce qui se passe avec des VPN, par exemple, sur les médias internationaux, qu'en fait, Poutine est déstabilisé, que tout le monde est convaincu que c'est sa dernière heure est arrivée, etc. Bon, je vous dis, c'est intéressant de regarder, de retrouver les archives, c'est sur YouTube d'ailleurs, de la contre-offensive ukrainienne du mois de juillet, août et septembre 2023. On a exactement les mêmes intervenants, quasiment les mêmes éléments de langage. Pour Poutine, c'est exactement la même chose. Quand on est à Moscou je vous invite d'ailleurs à venir, c'est très facile, les visas s'obtiennent en 4 jours, les visas de touristes, pour vous rendre compte. En fait, les questions qui se posent en Europe sont posées avec un prisme déformant, en fait, avec le prisme d'une opération psychologique de déstabilisation de la Russie. On peut aimer ou ne pas aimer la Russie, mais on n'est pas obligé d'être malhonnête et de raconter n'importe quoi ou de croire n'importe quoi. Voilà. Donc, qu'on la soutienne ou qu'on souhaite sa défaite sur le champ de bataille, si on est honnête, on est obligé de considérer que ce qui est en train de se passer dans les médias français, c'est de l'élément de langage et de l'opération psychologique. Les Américains savaient très bien faire ça au moment de la guerre de Bosnie, au moment de la guerre en Irak, au moment de la guerre du Kosovo, etc., etc. Là, je ne dis pas que ce sont les Américains, parce que là, ce ne sont plus les Américains. Les Européens savent très bien monter ce genre d'opération. Et Bernard-Henri Lévy, que vous mentionniez il y a un instant, est le spécialiste Avec des résultats d'ailleurs, je le disais, qui sont à mon avis très, très aléatoires, parce que je crois qu'il n'a plus, depuis longtemps, il n'a plus beaucoup de crédibilité auprès du grand public. Ils auraient pu choisir quelqu'un d'autre.
Alors, effectivement, on voit bien qu'il y a une certaine unanimité des médias occidentaux. Par ailleurs, on voit aussi que, évidemment, l'Ukraine apparaît être comme le petit pousset par rapport à la Russie. Vous nous avez dit tout à l'heure que l'Ukraine ne serait rien sans le soutien de l'Union européenne et le soutien pendant quelques années des États-Unis. On a quand même envie de vous interroger sur la manière dont la Russie considère, au bout de 4 ans, cette guerre qui était censée être une guerre éclair menée en 2 semaines.
Alors, ce que n'ont pas, à mon avis, anticipé les Russes ou pas suffisamment, c'est la rapidité et l'impact qu'aurait le soutien occidental sur un plan matériel. Bon, ça, à la limite, ils pouvaient encore le gérer, puisque les léopards, comme le disait le député russe Tolstoï dans une interview à BFM, les chars léopards allemands brûlent comme tous les autres chars et comme les chars soviétiques d'ancienne génération. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais ce qui a vraiment changé, en fait, c'est l'entrée en service des drones et le fait que les Ukrainiens soit passé maître dans l'usage des drones. Les Ukrainiens sont en infériorité numérique, ils ont moins de matériel que les Russes, ils souffrent, vous vous souvenez qu'ils souffraient d'un manque d'approvisionnement en obus d'artillerie de 155 mm, donc ils ont tout un tas de problèmes, qu'ils ont réussi en fait à compenser par, l'apparition des drones et leur usage massif. Ils sont vraiment virtuoses dans l'usage des drones. Les Russes aussi sont très bons, mais je pense que les Ukrainiens ont peut-être encore un temps d'avance sur les Russes. D'autre part, les soutiens financiers européens ont permis quand même de monter des chaînes de production énormes. Et donc, avec aujourd'hui des milliers de drones, vous arrivez à, je dirais, ça compense largement l'infériorité en artillerie ou en char. Vous arrivez à freiner l'ennemi, ce qu'ils réussissent à faire. Et d'autre part, ils sont en position défensive. Et quand vous êtes en position défensive dans des secteurs très urbains, je ne parle pas quand vous êtes dans la campagne, dans une tranchée en plein champ de blé, ça évidemment c'est problématique. Mais quand vous êtes retranché dans des caves ou dans des positions fortifiées, dans d'anciennes usines, etc., il est très difficile, en fait, pour vous déloger de là, il faut y aller à la cuillère à escargot. Aujourd'hui, la cuillère à escargot pour les Russes, c'est le drone et c'est de petits groupes de combat, de petits commandos de 4-5 personnel par équipe, mais ça prend évidemment beaucoup de temps. Donc les Ukrainiens sont pugnaces, les Ukrainiens ont de très bonnes unités, très bien formées, très bien équipées. Ceci étant, et c'est complètement occulté par aussi, si on est honnête, par cette opération un peu de psychologique et de communication, c'est que quand on regarde la carte du champ de bataille, vous pouvez trouver ça sur des sites anglais, notamment par exemple sur X, c'est assez précis. Les Russes se sont emparés, ont mis du temps, mais ils se sont emparés de positions clés aujourd'hui qui mettent à portée aujourd'hui de tirs d'artillerie et de leurs équipes d'infiltration 2 villes essentielles comme Slaviansk et Kramatorsk, qui sont les 2 derniers bastions ukrainiens dans le Donbass, dont la prise sera évidemment très longue parce que ce sont des villes très importantes, il y a des complexes industriels, etc. Mais dire que la Russie n'avance plus, c'est faux. On peut dire que la Russie avance lentement, que ça prend du temps, etc., ça oui. Et deuxièmement, dire que l'Ukraine avance, comme j'ai entendu aussi sur le territoire, là aussi, c'est faux. Je vous prends les cas de ces 2 villes dans le Donbass, mais il y a d'autres villages sur la ligne sud du front, près de Zaporozhye, où les Russes avancent aussi. Alors, on peut se gausser en disant que ce sont de petites avancées. De toute façon, cette guerre, elle sera encore longue, sauf retournement de situation improbable. Cette guerre sera encore longue et il faudra, pour commencer à tirer les conclusions d'une défaite ou d'une victoire de l'un ou de l'autre camp, à mon avis, attendre encore 1 an pour savoir si ces 2 bastions ukrainiens sont tombés ou pas. S'ils tombent dans 1 an aux mains des Russes, là, effectivement, sur le plan de la communication, sur le plan symbolique, l'intégralité du Donbass sera conquise par la Russie et ce sera évidemment une nouvelle défaite, il y en a eu d'autres, il y a eu plusieurs défaites ukrainiennes sur ce front, mais ce sera une défaite ukrainienne importante. Mais je pense que, de toute façon, c'est un peu une lutte à mort, d'ailleurs Poutine l'a dit, et d'ailleurs Macron l'a dit aussi, von der Leyen l'a dit aussi, etc. C'est un peu une lutte à mort, en fait, idéologique. Il y a 2 modèles idéologiques qui s'affrontent. Il y a le modèle russe, vous pouvez y ajouter d'autres pays, les BRICS, etc. Et puis, il y a le modèle mondialiste européen. Et je dirais, la Russie est en première ligne, mais il faudra que l'un des deux cède. Voilà. Et pour l'instant, on n'y est pas du tout. Donc, ça va durer.
Alors, ça va durer. Vous avez parlé des BRICS. Donc, merci pour cette ouverture. On s'est focalisé dans un premier temps sur le conflit russo-ukrainien. On reviendra peut-être sur la perception par les Russes eux-mêmes, non pas ceux qui sont au Kremlin, mais la population de base sur cette guerre beaucoup plus longue qu'elle n'avait été annoncée. Avez-vous l'impression que la Russie est isolée d'un point de vue international, que ses récentes défaites en Afrique, la manière dont elle n'a pas réussi à soutenir tel ou tel de ses alliés, a endommagé en fait son crédit diplomatique, ou au contraire, vu de Russie, la Russie continue à évoluer dans un monde plus libre, plus ouvert et moins critique à son égard?
Alors, je dirais que d'abord, les défaites, vous mentionniez, il y a des revers de Wagner en Afrique. Je rappelle simplement que la France, depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, mais on peut même faire remonter ça avant, mais avec Emmanuel Macron, ça s'est accéléré, a perdu quasiment toutes ses positions en Afrique. Toutes. Les soldats français, l'armée française, se sont fait virer de toutes leurs bases militaires en Afrique, quasiment. Il doit en rester une en Côte d'Ivoire. Donald Trump vient de subir une défaite en Iran. Donc, que la Russie subisse des défaites en Afrique, je dirais à la limite, qui ne subit pas de défaites? Bon, et en termes de défaites, on peut certainement trouver pire. Bon, que quelques sociétés militaires privées, bon, dont acte. La Russie, c'est ce qu'on ne voit pas vu d'Europe, c'est que comme nous avons un peu le défaut d'être auto-centrés, en particulier en France, on a l'impression que, tout ce qui se passe dans le monde, y compris sur le champ de bataille ukrainien, je dirais, ça passe forcément par l'Europe et que, en fait, on a l'impression que la Russie serait seule avec son petit allié biélorusse à côté et que finalement, voilà, il y a l'Europe qui soutient l'Ukraine, etc. C'est oublier que pour que cette guerre puisse continuer, pour que les Russes aient les moyens de faire cette guerre, exactement comme l'Ukraine, imaginons la puissance financière de l'administration démocrate au service de Zelensky les trois premières années de la guerre, et imaginons aussi la puissance des dizaines de milliards d'euros, des centaines de milliards d'euros maintenant, de l'Union européenne, dont la France est un État surendetté et contribue très largement. Quel est l'impact de tout ça pour l'armée ukrainienne? Évidemment, c'est colossal, et on l'a dit tout à l'heure, ça explique que l'Ukraine continue à réussir à freiner la Russie lui tenir la dragée haute. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la Russie? Il y a la puissance économique, il y a la puissance technologique de la Chine. Ça, on a du mal à le percevoir parce que en France, on ne connaît pas la Chine. On ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Imaginez que la Russie, l'économie russe, réussit à tenir parce que l'Inde est devenue le premier acheteur de pétrole russe. C'est difficile à comprendre ça. Bon, et là, on prend la Chine, l'Inde. On peut prendre aussi les États du Golfe. Prenez la position des Émirats, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de tous ces pays qui, en réalité, ne font pas de publicité, ne font pas d'opérations psychologiques, mais qui maintiennent un équilibre. Ils ont de bonnes relations, des relations correctes avec l'Ukraine, mais dans le même temps, ils permettent aux devises russes d'être échangées. Ils ont aussi, ils ont des partenariats économiques extrêmement développés avec la Russie. Ils investissent en Russie. Donc tout ça, on ne le voit pas. Et c'est important un petit peu de comprendre ça, parce que, évidemment, si la Russie était isolée, la Russie ne pourrait plus faire la guerre. C'est une évidence. Cette guerre coûte cher à la Russie. Elle coûte cher notamment sur le plan financier, sur le plan industriel, sur le plan énergétique. Il y a un impact de ces bombardements ukrainiens sur un certain nombre de sites. Mais l'économie russe n'est pas effondrée et le système politique russe aujourd'hui n'est pas déstabilisé. Il y a des questions qui se posent. Les gens voudraient que ça se termine. Et la plupart des gens qui voudraient que ça se termine souhaiteraient que Vladimir Poutine en termine une bonne fois pour toutes avec l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il intensifie les frappes et qu'il intensifie, je dirais, la réponse sur l'Ukraine. Et Vladimir Poutine, qui est engagé dans un dialogue diplomatique avec Trump, d'ailleurs, Lavrov a dit que suite aux accords d'Anchorage avec l'administration Trump, il n'y avait pas eu de suite de la partie ukrainienne, mais Vladimir Poutine a toujours laissé la voie diplomatique ouverte, pas directement avec Zelensky, parce qu'il ne veut pas rentrer dans un jeu d'acteur et dans un jeu de théâtre avec en face de lui quelqu'un dont l'agenda et les sponsors ne permettent pas des discussions sérieuses. Mais par contre, il a toujours maintenu le canal ouvert avec Trump, y compris d'ailleurs sur l'Iran. Donc aujourd'hui, les Russes sont peut-être une partie entre les Russes et peut-être c'est peut-être radicalisé avec tout ça et pourrait peut-être faire le reproche à Poutine de ne pas y aller suffisamment fort.
Alors voilà, bah c'est une réponse à mes deux questions d'un coup. Le fait que la Russie se soit radicalisée, cela vient-il aussi du nombre élevé de pertes humaines et comme d'habitude, évidemment, dans une guerre qui s'installe et qui dure longtemps, hein, 2022, 2026, 1914, 1918, on voit bien ce que c'est qu'une guerre aussi longue pour les peuples. Est-ce que cela vient de la lassitude de la population russe par rapport au nombre de morts et au fait que, malgré tout, une partie de la vie est suspendue à l'évolution du front?
Alors, il y a des morts, mais pas suffisamment. D'abord, les Russes sont élevés au souvenir de la Grande Guerre patriotique de 1939-45, avec les dizaines de millions de morts que ça a engendré. Il y a une semaine, j'étais à Argev, j'avais fait une petite escapade dans la campagne russe à 350 km de Moscou. C'est un théâtre d'opération. La contre-offensive russe soviétique de l'hiver 1942, ça a duré un an. Ils ont essayé de faire piller les Allemands. Ça leur a coûté plus d'un million de morts sur quelques centaines de kilomètres. Donc les Russes, je dirais les quelques milliers de morts, et c'est des milliers de morts en trop, mais là, de cette guerre, en réalité, quasiment, je dirais, ça passe pas inaperçu, mais je dirais à la limite, c'est surmontable. Évidemment, les soldats russes sont célébrés dans les rues de Moscou, dans les rues des villes russes. Vous avez des panneaux publicitaires qui sont couverts avec les têtes, des héros, ce qu'ils appellent les héros de la guerre. Vous avez des sous-officiers, des soldats, des officiers qui sont comme ça. Tous les 500 mètres, vous avez la figure de quelqu'un qui est d'ailleurs toujours vivant ou qui est tombé. Donc, tout ça, les Russes le savent, mais c'est pas, je dirais, il n'y a pas les motivités qu'il y a dans les populations occidentales. Vous avez 8 morts en Afghanistan, 10 soldats français qui tombent au Mali, etc. Je dirais, c'est le deuil national, Macron est dans la cour des Invalides, etc. Là, on n'a pas du tout cette émotivité, parce que simplement, les Russes sont plus résistants et que, bon, ils ont, je dirais, ils ont peut-être évolué différemment, on va dire ça comme ça. Pour le reste, je vais vous dire que, d'abord, avec l'apparition des drones, il y a beaucoup moins de morts qu'au début de la guerre. J'étais à Mariupol, je disais, avec LCI, au tout début de la guerre, dans les 3 mois pour la bataille de cette ville, la prise de cette ville par les Russes, il y avait des dizaines, des centaines de blessés et de morts russes. Côté ukrainien aussi, mais on voyait vraiment la guerre à l'ancienne. Aujourd'hui, avec les drones, les Russes et les Ukrainiens engagent moins de troupes. Les troupes sont cachées dans des caves et elles ne sortent, les petites unités ne sortent soit que pour le ravitaillement, soit pour effectuer la prise de bâtiments qui ont déjà été tapés par les drones, nettoyés par les drones. Donc il y a beaucoup moins de morts aujourd'hui qu'avant. Il y a toujours des morts, évidemment, notamment sur ces convois logistiques, parce qu'il est très difficile pour les deux armées d'approvisionner les premières lignes, parce que vous êtes sous le feu des drones. Et il est très difficile d'échapper à un drone quand vous êtes en voiture, quand vous n'avez pas un bon tireur à côté avec un fusil de chasse pour descendre le drone. Vous n'avez quasiment aucune chance de ne pas être touché. Alors, votre véhicule peut être touché, vous pouvez vous en sortir, mais c'est extrêmement compliqué sur certains secteurs. Mais il y a beaucoup moins de morts. Et je le dis, la plupart des morts aujourd'hui, il n'y a eu qu'une mobilisation en Russie, c'était en 2022. La mobilisation en Ukraine, je crois qu'on en est à la 5e, avec les images qu'on voit sur les réseaux sociaux, des gens qui ne veulent pas servir, qui sont mis de force dans des autobus, etc. Aujourd'hui, beaucoup des morts, côté russe comme côté ukrainien, sont d'anciens prisonniers dont les conditions de vie en prison ont été rendues insupportables, qui ont signé des engagements, d'ailleurs aussi pour des raisons, avec la perspective d'ouvrir une nouvelle page, de refaire sa vie, de gagner un peu d'argent, de redevenir quelqu'un de bien, de respectable, etc. Il y a beaucoup de raisons, mais il y a beaucoup de prisonniers aujourd'hui qui sortent des prisons russes et ukrainiennes et qui vont servir avec des contrats d'engagement. Et en général, je le dis, là, pas une révélation, mais on va se parler franchement, on est sur Radio Courtoisie, sur Ligne Droite, on va se parler franchement. La plupart de ceux qui aujourd'hui tombent des deux côtés, ce sont d'anciens taulards qui sont envoyés sur les missions les plus périlleuses. Et ça a toujours été comme ça dans toutes les guerres et dans toutes les armées du monde. Voilà. Alors, ça, c'est une réalité qui n'est pas expliquée, mais qu'il faut bien comprendre, parce que, je dirais, les deux armées ont conscience qu'il faut, préserver au maximum les bonnes troupes formées, les matériels, etc. Donc, on envoie de l'ex-tolar pour accomplir les missions les plus périlleuses. Et je l'avais déjà vu d'ailleurs avec Régis Le Sommier en 2023. On était sur des polygones d'entraînement au moment de justement de la contre-offensive. Et la plupart des gens qui étaient à l'entraînement avec de très bons instructeurs, mais la plupart des types qui étaient en formation étaient des types qui sortaient de tôle et qui ont été envoyés pour boucher les trous lorsque les Ukrainiens ont lancé leur contre-offensive, et dont 70% d'ailleurs ont été tués ou ont été blessés. Voilà, c'est exactement la même chose côté ukrainien. On l'a aussi, on a pu rencontrer, discuter avec plusieurs, d'ailleurs des dizaines de prisonniers ukrainiens depuis 4 ans, et c'est exactement la même chose. Ils vous disent, j'étais en prison à Odessa, c'était trop dur, ils nous ont rendu la vie infernale pour qu'on s'engage. Voilà, donc on a la même logique en fait des deux côtés. Bon, ça se comprend pour des raisons culturelles, des raisons historiques. Ça, quand même, des deux côtés, c'est quasiment les mêmes peuples.
Hein. Tout à fait. Alors, les auditeurs de Radio Courtoisie à qui on a posé la question de savoir si, à leur avis, l'Ukraine a encore les moyens de gagner la guerre, disent oui à 18% et non à 82%. Alors, on a l'impression que c'est aussi un vœu pieux, parce qu'on n'a pas du tout l'impression que les États-Unis ou l'Union européenne ont décidé d'arrêter de soutenir l'effort de guerre ukrainien.
Exactement, et c'est pour ça que je reviens à la remarque que je faisais tout à l'heure, c'est que dans l'idée des dirigeants européens, en fait, il faut gagner du temps. Il faut gagner du temps parce qu'il faut d'abord épuiser Vladimir Poutine et il faut essayer de le défaire sur le champ de bataille, sur le champ économique, etc. Ça, c'est une première chose. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de gagner du temps parce qu'il y a vraiment, je pense, ce projet idéologique et politique au sein des élites européennes. Mais pour pouvoir le réaliser, ils ont besoin de plusieurs choses. Je disais, il y a la défaite de Vladimir Poutine, mais ils ont besoin de se débarrasser de Donald Trump. Et pour se débarrasser de Donald Trump, il faut attendre la fin de son... Il faut tenir jusqu'à la fin de ce mandat et il faut s'assurer que son successeur, peut-être J.D. Vance, soit battu. Et tout ça laisse le temps aux dirigeants de l'Union européenne pour réformer l'Union européenne et pour avancer. Et il faut d'abord le préparer dans la conscience, dans les têtes des citoyens européens pour préparer ce grand projet de fédération dans lequel, d'ailleurs, Emmanuel Macron a un rôle à jouer, etc. Enfin, tous les copains vont être casés dans ce grand projet. Il n'y a pas de problème. C'est comme le bloc central en France. Vous voyez la campagne qui est en train de se mettre en place. Ils vont tous être casés. Même Bruno Le Maire qui avait dit, lorsqu'il a été viré du ministère des Armées, il avait dit si on ne veut pas de moi, je me casse. En fait, il se casse, mais c'est pour mieux revenir. Parce qu'ils sont, ils sont picousés, ils sont piqués, ils sont drogués à l'idéologie mondialiste et aux places et au pouvoir. Voilà. Donc, sur ce conflit en Ukraine, il y a la réalité du champ de bataille qui est importante, mais en réalité, peu de choses se décident aujourd'hui en Ukraine. Si les dirigeants européens disaient à Volodymyr Zelensky maintenant c'est terminé, en 15 jours, il n'a plus les moyens de faire la guerre. Et ils sont ils peuvent trouver un accord avec les Russes. Voilà. Les choses bougent, ce n'est pas un bloc monolithique. On voit le président polonais conservateur, trumpiste, qui je dirais, a tenu tête à Volodymyr Zelensky et qui, pour cette raison, a été menacé par le président ukrainien. Il y a un certain nombre de forces en Europe qui ne sont pas pro-russes, mais qui, je dirais, contestent le pouvoir d'Ursula von der Leyen et des mondialistes. Et donc, cette partie est en train, en fait, ce qui est en train de se jouer, c'est vraiment une guerre en fait politique et idéologique au sein de l'Union européenne et des élites européennes contre des pays plus conservateurs, des dirigeants plus conservateurs. On disait Poutine et on disait Trump. Chaque pays a ses intérêts, a ses propres intérêts. On peut très bien le comprendre. Les Français ne sont pas les Russes, qui ne sont pas les Américains et vice-versa. Mais ce qui est en train de se constituer quand même contre les élites de l'Union européenne, notamment au sein des BRICS, fait que finalement, ceux qui sont aujourd'hui isolés, eh bien, c'est Macron et ses amis de Bruxelles.
Eh bien, merci beaucoup Charles d'Anjou pour cette analyse vécue de l'intérieur de la Russie et du conflit russo-ukrainien. Et je vous dis à la rentrée.
Merci Richard, à bientôt.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour Gilles.
Bonjour Richard.
Moi c'est Richard, tout à fait. Alors la presse revient sur le meurtre de Louis, 17 ans, à Narbonne.
Oui, certains médias s'interrogent comme toujours sur ces crimes épouvantables qui feraient le jeu de tel ou tel courant politique, tel ou tel parti, alors que d'autres sont en plein déni de réalité. L'opinion en une a pris le relais. Être scandalisé par le lynchage de Louis, écrit Gauthier Veil, sont autant de sujets politiques qui ont tous un préalable, et l'attitude de ces bourreaux ne fait le jeu de personne, c'est une réaction humaine. La fin de l'excuse de minorité, l'indispensable sévérité de la réponse pénale, l'ultra-violence d'une partie de la jeunesse, le dénuement de l'aide sociale à l'enfance sont autant de sujets politiques qui ont tous un préalable commun. Comment accepter de regarder la réalité en face, peu importe qui nous la donne à voir?
Alors le dénuement de l'aide sociale à l'enfance, ben, il faudrait que le journaliste de l'opinion regarde la réalité en face. L'aide sociale à l'enfance est riche. Hier, la mère de Louis répondait aux questions de Jules Laurence, Charles Dornelas et Jules Torres dans le journal du dimanche.
Oui, à la question « Qu'attendez-vous désormais de la justice ?» Cette mère meurtrie répond « Je veux qu'il soit jugé, sous-entendu ses assassins, comme des adultes. Je veux que Louis soit le dernier. Je veux que les lois soient revues. Quand on tue un homme, on paye. » comme un homme. Et plus loin, elle ajoute « La justice doit prendre ses responsabilités. On ne peut plus s'appuyer sur des textes d'un autre temps pour juger des mineurs qui ne sont plus les mineurs d'autrefois. Donnons les moyens à la justice de faire son travail. » En revanche, pas un mot sur le meurtre de Louis dans la tribune du dimanche. Assez curieux pour un hebdomadaire.
Oui, mais c'est une presse vraiment libre. Stéphane Bern, cela dit, donnait un entretien à la tribune.
Oui, alors il paraît qu'il serait l'un des animateurs préférés des Français. Alors nous avons du mal à assumer notre héritage et notre génie propre, dit-il. Et je ne vous parle pas du wokisme. Il se confie à Joséphine Simon-Michel. J'ai été élevé dans une école publique où l'on ne distinguait pas les individus selon leur couleur, leur origine ou leur religion. Je ne me reconnais pas dans les discours qui hiérarchisent des souffrances ou enferment chacun dans une identité. Autrefois, les matchs de football fédéraient toute une nation. Aujourd'hui, ils divisent. Ils divisent davantage qu'ils ne rassemblent. Alors oui, notre République est en danger. Et quand la journaliste lui dit qu'il donne le sentiment d'être inclassable, Stéphane Bern répond « Moi, j'ai décidé d'être libre ». C'est assez paradoxal pour quelqu'un qui aime autant les monarchies, le patrimoine et l'histoire, mais je me moque profondément des codes. Je ne veux être le porte-parole de rien ni de personne. Je suis homosexuel, mais je ne me reconnais pas dans toutes les revendications portées en mon nom, ce qui m'a valu d'ailleurs des torrents de haine. De la même manière, je revendique la liberté d'être moi-même. Voilà, à lire dans la tribune du dimanche, de dimanche, en vente comme le JDD, jusqu'à mardi soir.
Et alors sur le baccalauréat, la fermeté des consignes sur l'orthographe émises par le ministère de l'Éducation a fait long feu.
Ah oui, comme dirait l'autre, ça a fait pchit. Hein. Et pour cause, les inspecteurs n'ont pas vraiment répercuté ces consignes, comme le révèle Le Figaro de ce lundi. Dans une note de service adressée en mars au recteur, inspecteur et chef d'établissement Édouard Geffray avait indiqué que les notes du bac et du brevet 2026 devraient prendre en compte, je cite, la qualité rédactionnelle des copies, comme si c'était pas naturel. Le 7 mai, dans les colonnes du Figaro, il se montrait plus clair. Les élèves qui rendent des copies mal rédigées ne peuvent pas avoir le bac. Il y aura des consignes précises pour qu'à la fin, aucun professeur ne s'entende dire, au pire, vous lisez à voix haute. Et si, vous comprenez le sens global de la copie, vous mettez la moyenne. La journaliste Caroline Beyer écrit « Dans la mesure où une maîtrise imparfaite de l'orthographe et de la syntaxe ne gêne pas la compréhension du propos du candidat ou de la candidate, on sera attentif à ne pas pénaliser ses copies. » Voilà, c'est ce que dit un des inspecteurs qu'elle a interviewé. Alors voici les propos tenus par un autre inspecteur le 10 juin dans le cadre de la traditionnelle réunion d'entente académique chargée de fixer les consignes de correction pour le bac. Vous le savez, nos élèves ont de plus en plus de graphies, parfois mal maîtrisées, difficiles à lire. On n'a pas de solution, évidemment, commente-t-il. Vous êtes en fin de journée, vous êtes déjà fatigué, vous avez corrigé plusieurs copies, vous tombez sur une copie difficile à lire. Bah, on vous propose simplement de la repousser, de la corriger le lendemain, à un autre moment, de façon à ce que, en tout cas, le candidat ne soit pas sanctionné du fait de sa graphie, conseille-t-il au correcteur. C'est assez affligeant.
C'est navrant. À la veille des vacances, le Parisien publie un supplément sur les escapades en plein air.
Oui, alors mon cher Richard, ça va vous donner des idées d'escapades. Prenez le frais, voilà le titre qui résume ces explorations de la France en canoë, en bateau, sans permis, à vélo, en randonnée ou en camping. Le Parisien a même osé ce titre digne du canard enchaîné. Le camping, ça vous tente ? Voilà, bon, Franck pourrait mettre des rires à ce moment-là. Cependant, j'ai retenu pour vous une randonnée en Seine-et-Marne entre Vulaine et Montigny-sur-Loing, en passant par Moret-sur-Loing et Orvanne. Alors, comment s'y rendre ? Tout simplement depuis la gare de Lyon, en empruntant le RER R, avec changement à Melun jusqu'à Vulaine-sur-Seine, projet de faire 28 km en deux jours entre rivière et forêt, alors soit à pied, soit à vélo. Si vous trouvez un cheval, c'est encore mieux. Au programme des sites classés, sur les traces des impressionnistes, on sait que Moret-sur-Loing est un des plus beaux villages de France, et notamment Alfred Sisley, avec une nuit à Moret-sur-Loing, photos et dessins du parcours dans le Parisien. Et puis, petit rappel, on pourra dès le 4 juillet nager dans la Seine au pont Louis-Philippe de 8h à 18h, devant le parc de Bercy de 11h à 21h, ou au port de Grenelle face à l'île au Cygne dès 10h. Mais vous avez toujours la possibilité, mon cher Richard, d'aller nager dans la très belle piscine Joséphine Baker dans le 13e, dans le grand bassin de 25 mètres, découvert par beau temps. Il vous en coûtera, alors vous, je crois que ce sera plutôt 3,50 €, mais pour les plus jeunes, c'est à partir de 2 €. Voilà.
Tout ça ne vaut pas le clair de lune à Maubeuge.
Voilà,
vous la connaissez,
oui, ben, par cœur.
Tout ça ne vaut pas une croisière d'eau Kremlin. Bicêtre.
Eh moi, bien, j'ai le regret, de la piscine de Ligny, parce que j'aimais bien y aller, et j'ai fait les dernières photos de la piscine de Ligny qui s'est effondrée.
Juste après une soirée jalon, je dois l'avouer.
Exactement.
Nous avons fait une fête à la piscine de Ligny, elle a coulé le lendemain.
Et j'avais appris ça à mon ami Roland Jacquard, qui était très triste, qui avait sa cabine attitrée. Autre temps, autre mœurs.
Mais gros problème de riche, effectivement. Merci beaucoup, Gilles. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur la zone libre ?
Vous me prenez tous de court, on commence par le petit jingle.
Ah oui, il y a un jingle aussi.
Le sonal.
Voilà.
Alors effectivement, Louis m'a conseillé une petite nouvelle, voilà, parce que figurez-vous que Jean-Pierre Raffarin, déjà, est-ce que ça vous dit quelque chose, Jean-Pierre Raffarin ? Non, parce que moi, je dois avouer,
bah
oui, voilà. Et bien figurez-vous qu'il est au cœur d'une polémique, hein, notre monsieur Raffarin, puisque son véhicule de fonction a heurté un deux roues et blessant, ce qui a blessé donc le conducteur donc, de ce fameux deux roues. Mais le problème, c'est que les ex-premiers ministres, selon les promesses de l'État, n'ont plus du tout droit à ces avantages. Depuis plus de 10 ans. Et manifestement, ça fait depuis
mais
plus
il
de
avait,
10 ans. Parce
il
que
avait
je
pleuré,
suis né sous Chirac. Donc
il avait pleuré auprès de Macron pour se faire attribuer une mission qui lui permettait d'avoir une voiture de fonction.
Ben voilà, et ben au moins on voit bien que.
Et dans cette nouvelle, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que la bagnole a eu renversé le deux roues, Raffarin est descendu et s'est tiré.
Il a pris la fuite.
C'est fait la balle.
C'est très solidaire vis-à-vis de son chauffeur.
Voilà. C'est un premier ministre républicain. Et voilà, il est temps de le souligner.
Et il a pris un VTC après.
Et vous-même,
vous êtes au courant de plein de choses.
Ouais, bien informé. Moi, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé à Nogent-le-Rotrou, où il y a un homme de 82 ans qui a été persuadé que la révolution avait éclaté, que Macron avait été destitué. Du coup, il s'est caché dans son jardin avec un fusil et il a tiré sur les gendarmes qui sont venus le déterrer de là. Et il est vraiment persuadé, il est en garde à vue, il ne comprend pas le problème, que la révolution a éclaté. Et que Macron était destitué.
C'est la chaleur,
voilà,
c'est incroyable.
Là, il faut écouter Radio Courtoisie. Voilà. Quand la révolution éclatera, nous vous le dirons, mais pas avant.
Ça me rappelle ces Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale qui s'étaient cachés, qui s'étaient terrés vraiment pour échapper au tir. Et pendant des dizaines, voire des décennies, du coup, ils étaient complètement en décalage total avec les nouveaux présidents, les faits d'actualité, les bouleversements géopolitiques. Ça a été un choc absolument majeur quand ils devaient se réadapter petit à petit aux nouveaux enjeux.
Il y en a qui se sont fait seppuku après.
Voilà. Moi, ça me rappelle tous ces intellectuels communistes qui se sont terrés pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont aussi attendu les années 70 pour reconnaître qu'en fait, Staline était un salaud. Effectivement, il y a des gens qui sont terrés dans les caves à Saint-Germain-des-Prés. C'est absolument abominable. Vous-même, vous aviez quelque chose.
La saison se termine et forcément, moi, je n'ai plus de chronique et malheureusement, voilà, parfois, je trouve des extraits assez amusants et que j'aimerais vous faire partager. Et aujourd'hui, c'est Luc Ferry, plutôt hier sur LCI, qui a eu un argument assez surprenant et déroutant, il faut bien le dire, sur ces jeunes et plus généralement ces Français qui se plaignent de la canicule qui vient de se terminer d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on l'avait pas vu venir. Luc Ferry, qui d'habitude dit beaucoup de vérité, là, on peut dire qu'il a un petit peu dérapé. Écoutez.
Mais il faut arrêter, là. Écoutez, franchement...
Bah, ceux
on
qui
a
sont 15 dehors,
jours
c'est
de
dur.
Chaleur, voilà. Bah, franchement, mais dans quel monde on vit? Enfin, écoutez, franchement, mon père s'est évadé 4 fois des camps nazis. Il faisait très chaud aussi, surtout dans le four qu'on avait préparé pour lui. Bon, c'est invraisemblable.
Alors, non mais...
Non, mais ça va pas bien.
Comment rebondir là-dessus? Voilà. C'est incroyable.
Et qu'est-ce que la journaliste a pu dire?
Pas grand-chose.
Je pense qu'elle était stupéfaite.
Elle l'avait pas vu venir, je cache pas.
Je pense qu'il a lu Les Anciens, il a lu Sénèque, il a lu Ovid, et je pense qu'il faut relativiser tout ce qu'on vit dans la vie.
Oui,
voilà,
oui, c'est pas faux. Mais par contre, la journaliste l'a sèchement recadré au moment où il a traité de grosse la ministre de l'écologie qui avait fait une déclaration très violente contre la climatisation. Et voilà, exactement.
Ouais,
et
a dit des bêtises. Hein.
Il l'a traité de grosse.
Oui, de grosse. Et là, il a été recadré. Mais pas à ce moment-là.
Ah oui, non, parce qu'effectivement, traiter de gros quelqu'un, c'est vraiment lamentable. Alors que parler des fourgons. Des fours crématoires pour les campagnes à la canicule, c'est assez bénin. On comprend qu'elle ait préféré défendre, s'attaquer à la grossophobie du Quiri. Eh bien, merci beaucoup pour cet exemple de naufrage intellectuel en direct. Et chers amis, voilà, c'est la fin de la zone libre, mais c'est aussi le moment de prendre congé de vous sur YouTube et sur X. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à maintenant. Vous avez été enthousiastes. Merci de l'avoir dit dans le chat. Merci de l'avoir dit dans la conversation. Il ne reste plus qu'à transformer cet enthousiasme en promesses sonnantes et trébuchantes. 1 euro pour l'été, c'est ce que nous vous réclamons.
Oui, 1 euro pour l'été ou plus, hein. On ne limite pas du tout à 1 euro, mais on se dit que si chacun envoyait 1 euro parmi tous ces gens qui écoutent Radio Courtoisie mais qui ne cotisent pas, eh bien, allez sur soutenir.rc.fr pour nous aider à passer l'été, soutenir.rc.fr pour nous aider à rester indépendants, à défendre vos idées et à mener le combat. On vous souhaite donc un bel été à tous, hein. Nous, on finit que demain, donc j'espère que vous serez là et on compte sur votre aide à tous.
Merci Franck et réécoutons tout de suite l'analyse d'Alain Destex qui nous parlait du vote en Nouvelle-Calédonie sur la manière de rester ou non à l'intérieur de la France.
Ligne droite. Debout les Français.
Et debout les Français, c'est avec Alain Destex. Bonjour monsieur.
Bonjour, comment allez-vous Richard?
À merveille, et vous-même?
Bah, très bien, très bien.
Alors, vous allez très bien, en partie parce que les résultats en Nouvelle-Calédonie ne sont pas excellents, mais en tout cas, on ne peut pas dire que les indépendantistes aient réussi à faire basculer l'opinion de leur côté.
Oui, c'est ça. Donc, malheureusement, les résultats ne sont pas déterminants pour les loyalistes, les non-indépendantistes, ceux qui ont choisi et qui choisissent tous les jours la France. Mais les indépendantistes n'ont pas non plus la majorité. Alors la première chose à dire, c'est que alors que cette élection était quand même très importante pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, le taux de participation il est encore en baisse par rapport à l'élection précédente en 2019. Il n'y a que moins de 2/3 des Calédoniens qui ont été votés. Et puis la deuxième chose, c'est quand même que le camp loyaliste progresse malgré un double handicap. Donc le premier handicap, nous en avons déjà parlé sur votre antenne, c'est ce fameux gel du corps électoral. Voilà, c'est-à-dire que vous avez environ 30 000 Calédoniens établis depuis des années de longue date en Calédonie qui n'ont pas le droit de voter. Donc vous imaginez, vous arrivez en Nouvelle-Calédonie, vous créez une entreprise, vous vous installez comme médecin, vous payez des impôts, vous faites des enfants, vous achetez une maison, vous êtes totalement inséré dans le tissu économique et social et vous n'avez pas le droit de voter en vertu des accords de Nouméa de 1998. Donc autrement dit, vous êtes arrivé en 2000, vous êtes là depuis 25 ans, vous avez une maison, vous participez à la vie économique, eh bien non, vous ne pouvez pas voter. Donc c'est le premier handicap.
Et vous êtes français, on va ajouter ça aussi comme petit détail dans ce corps électoral.
Oui, que bien entendu, on parle de français, donc c'est vraiment un scandale démocratique. Mais évidemment, ça impacte le résultat de l'élection, puisque ces gens ne participent pas, donc forcément, ils voteraient plutôt pour des candidats loyalistes.
Parce que rappelons que c'est, en fait, les 63% ou 64% dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est 192 000 Calédoniens. Donc si on ajoute 30 000 Calédoniens en plus, on voit bien que le résultat de l'élection est complètement bouleversé.
Absolument, c'est que vous faites bien de rappeler que ça se joue tout ça sur des nombres très, très faibles finalement. C'est entre un sixième et un cinquième du corps électoral. Donc effectivement, si ces gens pouvaient voter, le sort de l'élection, le résultat serait différent. Le deuxième handicap qui est plus rarement souligné encore, c'est que le Congrès de Nouvelle-Calédonie, donc celui qui est doté de très larges pouvoirs législatifs et exécutifs, et j'en profite pour dire que beaucoup plus large et beaucoup plus étendu que le projet qui est actuellement discuté à l'Assemblée nationale pour la Corse, ce congrès est désigné non pas directement par des électeurs, mais par les résultats des élections dans chacune des provinces. Or, la province sud, qui est la plus peuplée et la plus riche sur le plan économique, est sous-représentée par rapport à son poids démographique, alors que les deux autres provinces, la province du Nord et la province des îles de Loyauté, elles sont surreprésentées. Donc, autrement dit, les forces loyalistes françaises sont désavantagées à deux égards.
Alors, il faut revenir un tout petit peu sur cette question de la représentation au sein de l'Assemblée. C'est-à-dire que la région la plus peuplée n'a pas un nombre de sièges directement proportionnel au peuplement de cette région.
Exactement. Et là, vous savez, certaines personnes disent oh, les accords de Nouméa, donc qui remontent à 98, c'était formidable, ça a permis de créer le développement économique, ça a apaisé les tensions. Mais non, parce que en fait, Nouméa a créé les conditions du conflit qu'on a connu il y a 2 ans, en 2024, et les conditions des émeutes, puisque les accords de Nouméa prévoyait 3 référendums sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et les 3 référendums ont été gagnés par les partisans de la France. Mais ces 3 référendums ont attisé les tensions. Les majorités n'ont pas toujours été, sauf dans le troisième, mais les Kanaks n'avaient pas participé. Les majorités n'étaient pas toujours très, très, très grandes. Et finalement, ça a attisé les tensions plutôt qu'autre chose. Et ces accords de Nouméa prévoyaient également toujours, dans un souci de rééquilibrage, c'était le mot employé dans les accords, de surreprésenter les provinces nord et des îles où il n'y a pas énormément d'activité économique. Toute l'activité économique en Nouvelle-Calédonie se concentre autour de Nouméa et de la province sud. Alors quand on regarde les résultats globaux, donc les loyalistes qui sont en fait le rassemblement des non-indépendantistes, mais moi je n'aime pas ce terme parce que non-indépendantiste, ça veut dire déjà se déterminer par rapport à la revendication de l'indépendance. Or, ce sont des Français, des loyalistes, donc ils n'ont pas à se revendiquer négativement par rapport à une hypothétique indépendance. Ces loyalistes ont quand même gagné 4 sièges. Les indépendantistes en ont gagné 1. Et malheureusement, les loyalistes échouent à 5 sièges de la majorité absolue. Alors, cette élection se caractérise aussi par la disparition des forces dites modérées, c'est-à-dire celles qui voulaient un compromis finalement entre loyalistes et indépendantistes. Donc aujourd'hui, il n'y a plus que 3 forces représentées au Congrès de Nouvelle-Calédonie, les loyalistes, donc derrière Sonia Baquès et Nicolas Mesdorf. Madame Baquès a été ministre secrétaire d'État du gouvernement Macron. Nicolas Mesdorf est actuellement le député à l'Assemblée nationale. Donc ils échouent à 5 sièges près. En face, il y a le camp indépendantiste qui gagne 1 siège, mais qui est divisé. Et il est divisé entre environ 2 tiers d'entre eux qui appartiennent au Front de Libération Nationale Kanak Socialiste, on oublie toujours le S, qui, lui, est radicalement pour l'indépendance et pour une rupture avec la France. Mais il y a quand même, au sein de ce camp nationaliste, un petit tiers des élus, qui sont ceux qui ont participé aux accords de Bougival et puis aux accords de Oudinot-Élysée, qui sont plus ouverts à une sorte de compromis à condition que l'indépendance reste la perspective finale. Et puis donc, entre ces 2 blocs, à peu près équivalent, vous avez l'éveil océanien, 4 sièges ou 5 sièges, qui représentent les populations surtout de mélanésiennes.
De Wallis et Futuna, en fait.
De Wallis et Futuna, essentiellement, exactement. Et malheureusement, avec seulement 4 ou 5 sièges, cette force va pouvoir déterminer la majorité au Congrès. Au fond, globalement, la situation reste figée. Le rapport de force est à peu près le même que lors de l'élection précédente. Et cela augure mal, finalement, de possibles futures négociations. D'autant plus, Richard, que la Calédonie va être un enjeu, alors non pas majeur, mais quand même important de la Nouvelle-Calédonie, puisque Jean-Luc Mélenchon soutient l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie et du peuple kanak, et a déjà annoncé enfin, que dans la stratégie électorale de Jean-Luc Mélenchon, l'outre-mer et en particulier la Nouvelle-Calédonie vont jouer un rôle important, puisque les calculs électoraux montre que sur ce territoire et parmi le peuple kanak où il arrive en tête, s'il arrivait à augmenter le taux de participation qui est très faible, ça lui permettrait de gagner les quelques dizaines de milliers de voix qui lui ont manqué il y a 5 ans ou il y a 4 ans pour arriver au second tour.
Donc, et effectivement, on sait que l'extrême gauche est très, très active en Nouvelle-Calédonie. Il faut revenir sur un point qui est quand même la chose la plus stupéfiante, c'est-à-dire on a voté 3 fois pour que l'île soit française ou devienne indépendante, 3 fois les néo-calédoniens ont choisi, en fait les Français ont choisi la France, et malgré tout, les gouvernements successifs continuent à expliquer que il faut discuter avec les indépendantistes, etc. Donc depuis Bougival, donc depuis 1998, on a en permanence une volonté ferme de la métropole, en fait, de remettre en cause le résultat des urnes et de pousser à l'indépendance, quel que soit le résultat.
Absolument. Et les gouvernements de Emmanuel Macron sont tétanisés, ont été et sont toujours tétanisés par la perspective de nouvelles émeutes. Et la seule politique du gouvernement, c'est d'éviter des émeutes. Mais éviter les émeutes ne tient absolument pas compte, comme vous venez de le dire, de la volonté démocratique des Calédoniens exprimée à 3 reprises. Et on peut dire encore exprimée lors de ces élections d'hier, puisque les loyalistes ont gagné 4 sièges, hein, ce n'est pas négligeable, avec, comme vous l'avez rappelé, un corps électoral qui est quand même de moins de 200 000 personnes, avec le double handicap du gel de ce corps électoral et de la sous-représentation de la province sud. Et effectivement, le gouvernement français ferait bien de dire, voilà, la Nouvelle-Calédonie fait partie de la France. Vous savez qu'elle fait partie de la France depuis plus longtemps que la Haute-Savoie et le comté de Nice. La Nouvelle-Calédonie est française depuis 5 ans, avant le comté de Nice et la Haute-Savoie. Donc il y a une très longue tradition et histoire d'appartenance à la France. Parler de colonisation est absurde aujourd'hui, et les forces de gauche, évidemment, essaient toujours de présenter ça comme un processus de décolonisation, mais à ce compte, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Porto Rico, les îles Samoa, les Mariannes, tout ça aussi serait alors des colonies, et dans ces cas, on ne parle pas de décolonisation. Donc il faut arrêter ce discours gauchiste, il faut ne pas tenir compte de ce vague comité de l'ONU sur la décolonisation qui n'a aucune légitimité et qui cherche simplement à embêter la France, et affirmer clairement que la France, la Nouvelle-Calédonie fait partie de la France. Mais le problème, c'est que quand vous regardez les déclarations des forces politiques, y compris d'ailleurs celle de Marine Le Pen, qui n'est pas très populaire en Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, le Rassemblement national, contrairement par exemple à Mayotte, où il triomphe, il est très fort, n'est pas très populaire parce que Marine Le Pen n'a pas écarté définitivement la perspective d'un nouveau référendum. Alors, elle a parlé d'une échéance très, très longue, 30 ou 40 ans, mais il n'empêche que dans le camp loyaliste, parler de la perspective de référendum, c'est un repoussoir absolu, puisque ça a mené aux émeutes de 2024. Et à cet égard, d'ailleurs, Jordan Bardella, jusqu'à aujourd'hui, a été beaucoup plus prudent, et on ne sait pas exactement, à part le fait qu'affirmer qu'elle fait partie de la France, quelle serait sa position sur la Nouvelle-Calédonie. Mais ce qui est certain, c'est que ce sera un enjeu de l'élection présidentielle, et que chaque candidat va devoir se déterminer clairement sur sa position par rapport à la Nouvelle-Calédonie. Donc Jean-Luc Mélenchon, c'est très clair, c'est l'indépendance et c'est le soutien au peuple kanak. Et même donc Marine Le Pen, ou Jordan Bardella, je viens d'en parler. Et même un candidat, alors les macronistes, ben, on ne sait pas, puisqu'ils sont leur seule politique, donc c'est des émeutes, et pour le reste, ils sont ouverts à des négociations. Mais même Bruno Retailleau avait approuvé les accords de Bougival, qui créaient quand même une citoyenneté, une double citoyenneté française et calédonienne, qui était un compromis, mais un compromis qui quand même plaçait la Nouvelle-Calédonie dans une situation très, très inédite, un pied dans la France et un pied en dehors de la France.
Et rappelons que le FLNKS, donc le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, a torpillé ces accords parce que même s'ils fragilisaient la position de la France, ça leur paraissait quand même entériner un possible maintien à l'intérieur de la République française. Évidemment, les socialistes n'ont pas désiré que la France sorte vainqueur. Le FNKS, qui d'ailleurs a plié les petits partis indépendantistes, comme l'Union nationale pour l'indépendance, etc. Donc, dans les provinces pauvres, dans les provinces sous-développées, la Nouvelle-Calédonie, les socialistes radicaux remportent les meilleurs scores. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Alain Destex, pour nous parler de cet événement important. Et pas à bientôt, mais à la rentrée sur Radio Courtoisie.
Merci pour votre invitation et au revoir.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Richard de Sèze.
Eh bien, chers amis, merci de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. Il y a encore pour quelques minutes, c'est le moment de vous redire une fois plus que vous êtes 1 500 000 à nous écouter chaque semaine. Merci beaucoup, tous canaux confondus. Eh bien, n'hésitez pas, continuez à nous écouter. Vous êtes un peu moins de 20 000 à nous donner. Bah, n'hésitez pas, continuez à nous donner pour ceux qui nous donnent déjà. Et surtout, faites en sorte que cet écart entre 20 000 et 1 500 000 se comble. Commencez faiblement, commencez petitement. 1 euro, 2 euros pour l'été, ce sera parfait.
Je n'ai plus rien à dire à part l'adresse soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr.
Voilà, ou 61 boulevard Murat, 75016, pour ceux qui voudraient encore nous envoyer des chèques, merci beaucoup. Avec tout ce que vous nous donnez, nous réalisons de très belles émissions, et par exemple aujourd'hui, Franck.
Eh bien, dans quelques instants et en direct, Le Français en partage d'Albert Salon. Aujourd'hui, David Saforkada, candidat à la présidentielle de 2027. À midi, le libre journal de l'école de Florence Leroux et Hervé Roland. À 17h, tout à l'heure, culture et politique de Richard Haddad et Pierre Henry. À 17h30, restons courtois, comme tous les lundis, avec Pierre-Alexandre Bouclet, avec le rendez-vous avec Nicolas Pouvreau-Monti sur l'immigration, quel impact sur la Nouvelle-France. 18h30, le rendez-vous de la réinformation. Il sera question de Macron, de la gauche, de la canicule et des causes de l'impuissance. Et puis la justice avec le marié était sous OQTF. 19h30, le libre journal du lundi soir avec vous, Richard de Sèze. 21h30, la soirée musicale que nous propose Stéphane, sonate pour piano de Franz Schubert au programme.
Eh bien, merci beaucoup. Et demain, ce sera la dernière matinale de Ligne Droite pour le mois de juin. Et donc, on recommence en août. Et nous parlerons du procès de Marine Le Pen avec Hubert Coudurier, qui a rédigé une biographie monumentale sur la personne.
Bonne journée à tous et à demain 7h.